France Culture.
Imaginez un chef triplement étoilé au sommet de sa gloire. Il est à la tête de son propre restaurant, l'un des plus prestigieux de Paris, et sa renommée est mondiale. Les clients viennent des quatre coins du monde pour profiter à coups de centaines, voire de milliers d'euros, de l'un des plus beaux repas de leur vie. Ils viennent notamment pour la préparation de la viande rouge, une spécialité de la maison, et pour goûter un ou plusieurs des 12 plats signatures disponibles à la carte. La vie suit son cours, tout paraît simple. Il suffit de maintenir le niveau d'excellence tout en se renouvelant doucement. Imaginez maintenant que ce chef, d'un coup, enlève tous ses plats signatures de son menu. Plus surprenant encore, il décide de retirer la viande rouge de sa cuisine et de concentrer ses efforts sur les légumes, un produit qui était au mieux périphérique dans sa cuisine. Prise de risque insensée, me direz-vous. Changer sa cuisine de façon aussi radicale, tout en essayant de garder ses 3 étoiles, voilà une tâche herculéenne. C'est pourtant l'histoire d'Alain Passard et de son restaurant L'Arpège dans le 7e arrondissement de Paris. Déjà triplement étoilé, il devient en 2001 le chef de file d'une nouvelle cuisine française, qui met en avant le légume non comme accompagnement, mais comme vedette de l'assiette. Pour Alain Passard, cuisiner un légume ouvre sur des possibles illimités, une ivresse absolue permettant une créativité sans bornes. Dans ce numéro, de l'un à l'autre, l'ancien rôtisseur devenu docteur S. Légumes s'entretient de son parcours au micro de Joseph Confavreux, dans une émission diffusée pour la première fois le 28 août 2003.
De l'un à l'autre, une émission proposée par Joseph Confavreux. Nécessairement des émissions qui, a priori, vous allègent plus que d'autres. Il y a aussi parfois des petits avantages propres à l'animateur radio, comme celui de recevoir l'un des 600 romans de la rentrée littéraire, pas forcément le meilleur d'ailleurs, qui se transforme d'un coup en privilège exorbitant, comme celui de pouvoir se rendre l'eau à la bouche dans les cuisines d'un restaurant devant lequel il est déjà passé, sans même oser regarder la carte. Il y a encore une curiosité à rencontrer un homme décoré de 3 étoiles, d'autant plus si ce n'est pas un général. Il y a enfin l'envie de comprendre comment un sculpteur de viande, un homme génétiquement rôtisseur, est devenu un militant et un artisan du légume. En guise de cerise sur le gâteau, ou plutôt de tomate aux 12 saveurs sur son île flottante Mocamélis, je vous propose donc pour cette avant-dernière émission un tour de table avec Alain Passard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir délaissé vos fourneaux à une heure où l'activité dans les cuisines bat normalement son plein. Quand on entre dans votre restaurant, L'Arpège, situé rue de Varennes à Paris, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on ne dit pas restaurant, sur le menu il y a marqué maison de cuisine.
Oui, je trouve que ça a un caractère un petit peu plus profond. Il y a une vérité dans la phrase qui est à mon sens importante et qui se lie parfaitement, je trouve, au mot cuisinier.
Et donc quand on rentre dans cette maison de cuisine, je vais employer vos termes, le décor est assez sobre, il y a simplement un portrait au mur, c'est celui de Louise Passard, votre grand-mère.
Oui.
C'est elle qui vous a donné le feu.
C'était pour moi effectivement un personnage déterminant. Elle a su, avec énormément de délicatesse, de subtilité, elle a su me faire comprendre que la cuisine pourrait être pour moi quelque chose d'intéressant.
Mais elle était elle-même chef, enfin.
Elle était cuisinière, pas en chef, mais j'avais rapidement vu dans ses yeux, si vous voulez, qu'elle avait qu'elle vivait une véritable passion. C'était un très grand rôtisseur. C'est une femme qui était née sous un signe de feu. Elle avait une facilité, si vous voulez, à apprivoiser la flamme, à dompter un petit peu sa puissance. Et très vite, donc, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un de doué.
D'accord. Et donc, ce n'est pas en vraiment à vos parents, qui étaient, je crois, musiciens et couturières, que vous devez votre goût? Est-ce qu'il y a quand même des ponts entre les métiers de musicien, de couturier et votre métier à vous, Alain Passard?
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que là, bon, mon père m'a enseigné un peu la musique, ma mère était couturière. Je dirais que la main, le geste, avait une véritable importance dans la famille. J'avais un grand-père qui était vanier et sculpteur, donc cette grand-mère cuisinière. Donc, si vous voulez, on vivait un petit peu au rythme du geste, la souplesse des doigts, l'agilité de la main avait une véritable importance. Et je m'en suis rendu compte très vite. Et très très vite, je dirais que les mains m'ont rapidement démangé, quoi. J'avais ce besoin permanent de produire, de vouloir produire avec mes doigts et la cuisine donc s'est offerte à moi rapidement.
On va bientôt voir ce que vous avez produit, mais au-delà de la métaphore musicale, qu'est-ce qu'il y a comme lien vraiment entre la musique et la cuisine? Parce que quand on sait que vous pratiquez le saxophone, mais surtout ça s'appelle quand même, cette maison de cuisine s'appelle l'Arpège. Quand on entre, il y a justement un violon retravaillé par Armand, je crois, oui, et qui trône à l'entrée. Quels sont les liens?
Bah, écoutez, je pense qu'il y a, d'abord un cahier, il y a un cahier de musique, il y a un cahier de cuisine. Il y a la précision. Je pense que la précision est vraiment le pôle, je dirais, attractif des deux conjugaisons, quoi. On retrouve, si vous voulez, en cuisine un petit peu ce rythme que l'on peut avoir en musique. C'est la justesse, c'est le moment où justement les choses se passent, quoi. Là, ça se joue à la seconde. Il y a un tempo permanent.
À la seconde.
Qu'on retrouve dans les deux.
Mais qui se joue à la seconde.
Tout à fait. Hein, une cuisson, un assaisonnement, une harmonie de saveur, une température. Tout ça, c'est très important. Et je suis persuadé que derrière un piano ou derrière une contrebasse, on doit retrouver un petit peu ces émotions, je dirais, où on est presque dans un coma génial, quoi. C'est un moment presque insolite où effectivement le musicien ou le cuisinier, donc je dirais, s'échappe un petit peu du temps.
Chef, je mets les...
Restez là, ils vont pas tarder, les gars, là.
Ils sont là. Ah oui, ils sont arrivés ?
Ouais. Alors là, il est à peu près, je sais pas, 11h15. Vous en êtes... quelle étape de la préparation ?
Je dirais que... Ce que l'on peut préparer le matin, c'est essentiellement le toilettage du légume. Hein, le toilettage des poissons, des coquillages, des crustacés... On peut effectivement préparer quelques mousselines ou quelques cuissons longues, un petit peu comme ces échalotes ou ces oignons comme ça qui nécessitent effectivement deux heures de cuisson, quoi. Mais sinon, bon, il y a beaucoup, beaucoup de finition.
Le toilettage, c'est que ça puisse être utilisé tout de suite, c'est enlever...
Oui, c'est les rafraîchir un petit peu, les passer à l'eau fraîche. Là, on va le voir tout à l'heure parce qu'il y a un arrivage du potager qui arrive.
Potager qui est le vôtre.
Oui, voilà. Ouais.
Et donc ça arrive à quelle heure?
Bah là, au TGV de 11h15. C'est quoi?
C'est toutes les bâtissons grillés. C'est une espèce de courgette.
Une espèce de courgette. Donc là, il y a combien de personnes? 4? 1, 2, 3, 4?
Non, on est plus. Hein. Bon, là, c'est la préparation. Il y a un peu plus de monde au service.
C'est combien au total?
On est 2, 4, 6, on est une dizaine.
Là, on a l'impression, comme ça, quand on est là, que ça roule tout seul. Qu'est-ce que c'est votre rôle?
Oui, c'est vrai, oui. Mais vous savez, ce qui est important en cuisine, c'est de savoir observer. C'est avant tout un lieu de silence, un lieu d'écoute.
Silence, pas complet.
Oui, par rapport aux machines. Mais ça doit être un lieu de silence. Parce que le cuisinier doit savoir s'attarder un petit peu sur le fond de la casserole. Là, vous avez 5 ou 6 casseroles sur le fourneau, il se passe plein de choses. Là. C'est là où peuvent naître les recettes, justement. De voir un beurre comme ça
s'agiter dans le fond de la casserole, de voir ces échalotes avec une couleur un petit peu particulière, ce compoté de tomates, ce mijoté d'oignons, tout ça c'est très parlant. Et moi j'ai besoin de ce regard permanent, ce visuel comme ça qui s'accroche au produit. Ce qui est déterminant dans la création, ce sont les couleurs, ce sont les textures, ce sont les transparences, ce sont aussi les grains des produits. Et c'est là où on peut accrocher les choses. La conjugaison des couleurs est très importante.
Entendez là Alain Passard dans votre cuisine vers 11h du matin. Elle est assez petite cette cuisine par rapport à ce qu'on imagine.
Oui, je dirais que c'est plus un atelier. Ce que j'apprécie énormément d'ailleurs parce que ça nous rapproche un petit peu de l'artisan. Et on est très proches les uns des autres. Je dirais que les cuisiniers, pour faire de la bonne cuisine, je crois qu'il faut être assez groupé. Parce que il y a un véritable échange, aussi bien dans le geste que dans le regard. Et cette cuisine me convient parfaitement parce que justement, en l'espace d'une seconde, comme ça, je peux voir beaucoup de choses.
Et cette cuisine à taille humaine, avant d'être la vôtre, elle a d'abord été celle d'Alain Sandérins, chez qui vous êtes formé, puisque vous avez installé votre arpège dans les locaux même de l'ancien Orchestrat d'Alain Sandérins, là où vous avez été formé. On parle d'Oedipe en cuisine ?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, bon, cette maison a une véritable histoire, quoi. Elle a ce passé donc, avec Alain Sandérins, qui a été pour moi un élément, je dirais, déterminant dans ma réussite. C'est un monsieur qui a su m'apprendre à la fois la créativité, à la fois le bon sens un petit peu des choses. Je dirais que ça a été un véritable, et c'est toujours un véritable partenaire pour moi aujourd'hui encore.
La formation d'un chef impose quand même de voir plusieurs cuisines, justement, plusieurs chefs. Quel a été votre parcours à vous ?
Ben écoutez, c'était un parcours assez, je dirais, assez sage, parce que j'ai eu 3 maîtres d'apprentissage, très différents les uns des autres. C'est une école qui se respecte. On peut avoir effectivement envie de voyager énormément, de faire énormément de maisons. Moi, j'avais une certaine stabilité puisque je suis resté donc 8 ans avec mon maître d'apprentissage, Michel Kerrever, à Liffré en Bretagne. 2 ans avec Gaston Boyer à Reims et Gérard Boyer. Et donc 3 ans avec Alain Sandérins. Donc vous voyez, c'est un apprentissage assez sobre. Parce que bon, il s'est avéré que je m'entendais vraiment très bien avec eux et que bon, on a souhaité ensemble une collaboration assez longue.
Alors, pour récapituler, vous avez été donc formé successivement chez Kerrever, chez Boyer, chez Sandérins, et vous avez d'ailleurs pu dire j'ai appris la technique chez le premier, l'organisation chez le second, la création chez le troisième. Est-ce que c'est ça le tir ? C'est dans l'ordre d'une grande cuisine, technique, organisation, création ? Ou c'est dans le désordre ?
Peut-être, non, c'est pas mal, parce que c'est vrai que la technique est quand même l'élément fort du cuisinier. Donc, ce sont différentes écoles. Il y a l'école du feu, il y a l'école de l'assaisonnement. Et donc, c'est vrai que toute cette partie gestuelle, précision, c'est pas mal quand ça se passe au début.
Mais alors, justement, sur ces techniques et la place de la technique... Quelle est l'importance pour vous du toucher par rapport aux techniques de cuisson plus scientifiques, j'imagine, parce que maintenant on a l'impression que des fois la cuisine c'est quasiment scientifique. On sent votre admiration quand vous parlez par exemple de votre grand-mère qui se sert plutôt de sa paume, de la paume de sa main comme thermostat.
Oui, j'ai le sentiment parfois d'être resté un petit peu à son époque, mais ça me va très bien. J'ai un faible pour effectivement toutes ces méthodes un petit peu à l'ancienne, parce que je trouve que c'est la véritable cuisine. Je ne suis pas contre
l'authenticité. C'est des termes qui sont parfois dévoyés.
Oui, c'est l'authenticité effectivement. Et si vous voulez, bon, on se sent beaucoup plus proche du produit. Et effectivement, donc quand j'observais ma grand-mère, donc qui parvenait à capter un petit peu la force du feu avec la paume de la main. Ça pouvait pas me laisser insensible, et aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé autre chose pour remplacer un petit peu cette méthode que j'affectionne particulièrement, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précis.
Il y a quelque chose d'assez surprenant quand on pénètre pour la première fois dans la cuisine de l'Arpège, c'est qu'il n'y a pas de four.
Non, ce sont des techniques de cuisson que j'ai un petit peu, je dirais, effacées de mon savoir-faire, parce que je trouve que le four a tendance à déshydrater un petit peu le produit, que ça soit un légume, un poisson ou une volaille. Je vais vous expliquer simplement. Donc, quand vous mettez, par exemple, une volaille à cuire dans un four à 180 degrés, la volaille va prendre la température du four. Et donc, obligatoirement, va perdre un petit peu de sa souplesse. Et donc, je suis aujourd'hui parvenu, si vous voulez, à trouver une technique plus, à mon sens, plus forte, qui préserve un petit peu toute la souplesse des tissus. C'est de poêler les produits entiers sur la plaque. Ce sont des cuissons un petit peu plus longues. Mais l'avantage, c'est que le produit ne monte pas en température, parce qu'il est simplement dans le fond d'un sautoir ou d'une casserole. Et donc là, si vous voulez, on obtient vraiment un résultat assez étonnant. Il y a un investissement de la part du cuisinier beaucoup plus fort, bien sûr, parce que c'est une cuisson sonore, c'est une cuisson visuelle, mais on y prend un vrai plaisir. Le four, quelque part, est un instrument un peu aveugle, parce qu'on ferme la porte.
Mais alors parlons, Alain Passard, de ce que vous avez effacé, parce que vous avez créé beaucoup des plats qui sont devenus parfois des références, le carpaccio de langoustine au caviar, le poulet au foin, la grillade de foie gras aux dattes fourrées de citron, et un jour vous décidez de rayer de la carte les 12 classiques qui faisaient votre réputation. Pourquoi ? Par lassitude, par...
Je crois que c'est important parfois d'avoir envie de se remettre en cause. Hein, c'est une démarche qui est liée à la passion. C'est une démarche qui est liée aussi à tous les événements qu'on a traversés. Quand on est cuisinier, on ne peut pas rester insensible un petit peu à tout ce qu'on a pu lire, à tout ce qu'on a pu entendre. Et quelque part, il y avait quelque chose en moi qui était en attente. C'était cette cuisine du légume, et je n'en savais rien. Elle était là, elle attendait que je puisse lui offrir un petit peu mon savoir-faire.
Et comment, justement, elle a surgi, alors,
elle est arrivée à un moment où, effectivement, on a été, nous, cuisiniers, un petit peu, je dirais, pénalisés par tout ce qui s'est passé. On a quand même sali...
C'est-à-dire la vache folle,
oui,
et tout
on a
ça.
Quand même sali notre matière première. Et donc, le cuisinier doit être aussi un homme d'émotion, et moi, ça ne m'a pas laissé insensible. Donc, c'est vrai que la vache folle n'a pas été un élément déterminant pour mon changement de registre, mais effectivement, elle n'a pas été... on ne peut pas rester insensible à tout ça. C'est impossible, parce que, comme je vous le dis, c'est une maison de cuisine, c'est une maison de belles choses, c'est une maison de beaux produits, et donc ça m'a particulièrement affecté, et j'ai voulu aller voyager sur autre chose, une cuisine d'ailleurs que je ne connaissais pas très bien, cette cuisine du légume.
Il y avait aussi une volonté justement de se distinguer de cet héritage de rôtisseur.
Disons que la chance du légume aujourd'hui, c'est qu'il est approché par un rôtisseur. Hein, on définit effectivement une cuisine du légume avec un vrai caractère. On met au service de la cuisine. Je mets mon savoir-faire au service de la cuisine du légume. Tout ce que j'ai pu apprendre sur la cuisine animale, je le mets aujourd'hui, si vous voulez, donc en pratique sur un navet, sur une carotte, sur une tomate, sur un bouquet aromatique.
Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la viande et le légume, même si c'est la même approche ?
La cuisine du légume est beaucoup plus créative. La cuisine du légume, c'est une véritable ivresse. Je suis obligé parfois de sortir de ma cuisine parce que j'ai le sentiment, si vous voulez, que c'est un produit qui appelle. C'est un produit qui a besoin d'être travaillé. C'est un produit qui est fantastique parce que il nous procure un sentiment assez étonnant. C'est cette abondance un petit peu de possibilités de conjugaison dans l'assiette. On est influencé par les teintes, on est influencé par les formes. La courbe d'une aubergine peut être une superbe idée, peut être une inspiration, peut être la racine d'une idée de recette. Le grain d'un chou-fleur, comme je vous le disais tout à l'heure.
Mais vous dites bien, Alain Passard, que vous n'êtes pas étanche à ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle autant des OGM qu'on a pu parler de la vache folle ou de la malbouffe concernant la viande.
Bien sûr, ouais. Mais moi, je ne cuisinerai jamais les OGM. Je travaillerai toujours d'une manière, je dirais, très rigoureuse dans des produits qui n'ont encore pas été assez exploités. Croyez-vous qu'aujourd'hui, on est allé au bout d'une carotte? Croyez-vous qu'on est allé au bout d'une tomate, d'une pomme de terre? Vous croyez qu'on a suffisamment exploité tous ces produits? Voilà, à mon sens, on n'a pas fait le dixième de ce que l'on peut faire. Je pense qu'avec une carotte, on peut faire encore beaucoup de choses. Avec une pomme de terre, on peut faire beaucoup de choses. Il y a de multiples cuisines qui peuvent s'offrir à la cuisine du légume. La cuisine du légume fumé, la cuisine du légume flambé, ce sont des cuisines qui n'existent pas. On connaît la cuisine du légume gratiné, la cuisine du légume soufflé, la cuisine du légume au vin. On travaille très peu, ça n'existe pas. Pourquoi vouloir aller sur un terrain, je dirais, nouveau? Peut-être, alors qu'aujourd'hui, on a encore de multiples possibilités, de multiples recettes à mettre en pratique et à étonner, à pouvoir étonner. C'est ce qui est extraordinaire.
Dans le reportage tout à l'heure, Alain Passard, on vous entendait parler de l'arrivée du TGV vers 11h, gare Montparnasse, qui vous amène les légumes tout frais. Vous avez donc créé votre propre potager?
Oui, tout à fait. Donc c'est une décision qui était liée effectivement à cette cuisine du légume. J'ai eu besoin effectivement de faire mes propres légumes parce que je pense que le cuisinier a besoin aujourd'hui de connaître les identités. On doit, quand on est surtout cuisinier de qualité, on doit savoir un petit peu ce qui s'est passé derrière un légume. On doit connaître sa provenance, on doit même connaître le maraîcher. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Quel est le terroir? Quelle est la provenance? L'origine? C'est important. Pour faire de la bonne cuisine, moi je vais très souvent aujourd'hui chercher mon inspiration dans mes légumes, quand je les vois arriver, dans leur transparence. C'est quelque chose de très important.
C'est des questions de sécurité ou de qualité, ou c'est pas, on peut pas distinguer vraiment?
Bah, écoutez, moi, si je travaille une tomate, j'ai envie d'avoir une tomate de pleine terre. Hein, les tomates hors sol, non, c'est pas trop mon truc. Bon, pour avoir une très belle tomate, hein, il faut plusieurs mois. Hein, aujourd'hui, on voit apparaître des tomates hors sol en moins de 90 jours. Je suis désolé, mais à la dégustation, c'est pas ce que je peux attendre. Hein, j'ai besoin d'une tomate pleine de saveur. J'ai besoin d'une tomate pleine de tendresse, pleine de parfum. Sa texture est très importante. La peau de la tomate est très importante. Et donc effectivement, je n'ai pas hésité à engager deux jardiniers pour justement créer un petit peu nos propres légumes, et on s'en trouve très bien.
Vous parliez tout à l'heure de ce besoin de se renouveler. Comment est-ce qu'on se renouvelle? Vous allez piocher quoi dans des textes? Vous demandez à des gens de venir? Enfin, c'est uniquement en vous que vous puisez? Comment ça se fait un renouvellement en cuisine?
Bah, écoutez, bon, chaque cuisinier a un petit peu sa façon, quoi. Effectivement, certains chefs peuvent s'inspirer dans des anciens livres. Moi, je ne force pas la créativité, donc j'essaye de rester, si vous voulez, moi-même. J'essaye de rester le cuisinier, un cuisinier qui vit un petit peu à son rythme. Et quand je sens effectivement que La créativité s'adresse à moi, donc là je m'en occupe. Mais sinon, je peux rester plusieurs semaines sans lui adresser la parole. Ce sont des moments qui doivent arriver comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas vouloir créer pour créer. Je crois que la créativité, ce sont des moments de magie. Ce sont des moments de magie et en même temps de bonheur. Et vous savez, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est que chaque jour, quand je rentre dans ma cuisine, j'ai le sentiment de ne jamais avoir fait la cuisine. Et ça, pour moi, c'est...
C'est paradoxal.
Oui, c'est vrai. Et avec mon expérience, j'arrive parfois, comme ça, près du produit, à avoir à la fois un recul, à avoir une admiration, comme ça. Je crois qu'il faut admirer le produit pour pouvoir en extraire un plat. Savoir le regarder, prendre du temps et surtout le privilégier, se mettre en retrait par rapport à lui. Savoir regarder la transparence d'un oignon, savoir regarder sa couleur, sa forme, c'est quelque chose de très important en cuisine. Je dis toujours que le grand plat de demain, c'est un plat qui ne devra plus être approché par la main du cuisinier. Il y aura trois choses à faire peut-être. Bien sûr que le cuisinier sera toujours là, mais on sera dans la justesse, on sera dans la précision, il y aura peut-être trois choses à faire pour magnifier la recette. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut faire des plats très simples et qui sont extraordinaires. On vient de créer hier un plat assez étonnant, on fait un simple gazpacho avec une variété de tomates qui est verte.
Donc, ça date d'hier.
Tout à fait, c'est un gazpacho de tomates verte, mais qui est une variété verte. C'est pas une tomate qui n'est pas mûre. C'est une variété de tomate verte. Elle est extraordinaire. Et j'ai créé ce plat simplement comme ça à travers les couleurs. J'avais en face de moi la transparence d'une bouteille d'huile d'olive. J'avais cette pulpe de tomate verte. Et j'avais un citron vert. On a fait un grand plat avec ces trois produits. Et les clients du déjeuner d'hier et du dîner sont presque venus en cuisine me dire mais où la simplicité est là. C'est ça la vérité. Hein, je trouve qu'aujourd'hui la cuisine française est beaucoup trop compliquée, elle est beaucoup trop créative. Hein, quand je dis que, effectivement, pourquoi vouloir créer pour créer? Non, la création, elle arrive comme ça. Hein, et la simplicité, quand on parvient à la mettre en valeur comme à travers ce plat, c'est extraordinaire.
Ah oui, donc vous ne cherchez pas la création pour la création. Néanmoins, j'imagine que quand elle vient, il faut savoir la saisir.
Oui.
À quel moment se fait la part de l'expérimentation dans la création? Vous le faites chez vous? Vous le faites uniquement quand vous êtes en cuisine? Vous le faites quand vous êtes à la campagne?
Ça peut être en cuisine, ça peut être à la campagne. Chez moi aussi, je peux avoir des moments de... où je suis interpellé comme ça par quelque chose. Hein, quand je parle de visuel, effectivement, c'est très important. On a fait quelque chose de très amusant l'autre jour également, qui a été capté comme ça, simplement à travers les couleurs. Un sorbet cassis avec une feuille de basilic mauve. J'ai été appelé comme ça par ces deux teintes. Le cassis avait le sentiment de faire un véritable clin d'œil à la feuille de basilic mauve. Et après, ce sorbet, c'était magnifique, quoi. Et on a deux produits. Pourquoi vouloir créer avec de multiples saveurs? Non, essayons de faire extraordinaire avec une, deux, voire trois saveurs. Ça, c'est la grande cuisine.
Donc votre mythique tomate aux 12 saveurs va bientôt disparaître?
Oh, elle, c'est je dis elle parce qu'elle fait partie de la maison. Donc, mais ceci dit, on peut aussi avoir des grands classiques avec de multiples saveurs. Bon, là, nous sommes dans une conception un petit peu particulière parce que c'est une farce. Hein. C'est une farce, donc comme toutes les farces, une farce peut être composée avec de nombreux produits.
D'où vous vient, parce que je parlais donc de la tomate aux 12 saveurs qui est donc servie dans les desserts, vous avez l'air, et votre carte le montre, d'avoir un goût pour les desserts qui sont souvent la part pauvre dans certains grands restaurants.
Écoutez, j'ai été attiré très tôt par la pâtisserie, à tel point qu'à une période de ma formation, j'aurais pu être pâtissier. Hein, j'ai quitté la cuisine quelques mois pour apprendre la pâtisserie. Et c'est quelque chose qui ne me laisse pas insensible. Je trouve qu'il y a une architecture dans la pâtisserie qui est intéressante. Il y a un mystère dans la pâtisserie qui m'intéresse, dans les pâtes, dans l'histoire de la farine est également pour moi une véritable... c'est une très belle histoire. Il y a quelque chose qui me rapproche de la cuisine, dans la pâtisserie. Et c'est vrai qu'on conçoit un petit peu tous nos desserts nous-mêmes parce qu'on garde un petit peu l'esprit de la maison. Et je trouve que c'est important qu'un cuisinier s'attarde un petit peu sur ses desserts.
Et cet esprit de la maison, on peut le définir ou...
Moi, pas, mais je sais pas. Je souhaite qu'il y en ait un. J'espère qu'il restera. Je sais pas.
J'aimerais justement donc qu'on retourne un peu côté cuisine, voir ceux avec qui vous travaillez. Déranger un instant.
Ouais.
Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire ?
Donc là, je suis en train de brider les poulets pour le service. Donc, il y a plusieurs poulets, poulets viennois. Là, on a des poulets de Bresse. Là, c'est des pintades de Bresse aussi. Donc, je les prépare, je les vide, je les flambe et puis je les bride pour le service. Quoi. C'est ficeler en fait le poulet pour lui donner une forme pour la cuisson, quoi, le maintenir à la cuisson.
Ça fait combien de temps que vous travaillez à l'arpège ?
Ça va faire un an. Je fais un peu de pâtisserie, un peu de garde-manger. Après, j'étais au poste aux entrées chaudes et puis je suis passé à la viande. J'ai remplacé mon collègue qui est parti et ça s'est fait comme ça.
Vous aviez quoi comme formation avant de venir ?
Je travaillais au crayon avant. J'ai travaillé un an au crayon. Sinon, j'ai fait un bac pro en cuisine et une formation traiteur au Touquet.
Et c'est quoi, par exemple, la différence entre le crayon, que j'imagine être une cuisine beaucoup plus grande, et ici ?
Ouais, c'est complètement différent. Quoi. Ici, on travaille vraiment les produits pour le goût. Quoi. C'est plus simple qu'au crayon. On travaille vraiment des belles assiettes et on travaille moins le produit, plus la décoration de l'assiette que le produit. Quoi.
Vous avez quel âge ?
J'ai 22 ans.
Et c'est quoi l'objectif ?
Terminer encore, on va faire 4-5 mois ici, parce qu'il va y avoir la période de chasse. Quoi. Donc on va recevoir pas mal de gibier aussi et terminer mon année ici, puis après... voir d'autres restaurants sur Paris. Quoi.
C'est quoi cet instrument là ?
Ça c'est pour moi casser les os en fait. Quand je découpe les ailerons ou je coupe les pattes, ça me permet de taper dessus pour faire les deux. Parce que c'est vrai qu'ici le poulet aussi c'est une découpe vraiment particulière.
C'est quoi la découpe particulière ?
Par exemple, on coupe la cuisse en plein milieu, quoi, alors que dans notre restaurant on va lever la cuisse, on va la mettre comme ça, que là par exemple on la partage en deux, on la coupe, une belle découpe au niveau de l'os et ça nous permet de faire une coupe bien droite avec ceci et le couteau.
Donc ça c'est le poste des entrées chaudes.
Non, c'est viande. On fait légumes et viande ensemble.
D'accord.
Gratin, et la viande et poulet et pigeon.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
Deux ans.
Deux ans ?
Oui.
Et vous aviez travaillé où avant ?
Avant, je ne sais pas cuisiner avant.
Ah bon ?
Oui.
Et vous avez été pris comme ça ?
Avant, j'ai travaillé grande société au Japon. Vous connaissez Mitsubishi ?
Oui.
Mitsubishi.
Et vous faisiez quoi ?
Vous connaissez semi-conducteur ?
Oui.
Oui. Section de semi-conducteur.
Vous fabriquez les semi-conducteurs ?
Oui.
Et alors ? Pourquoi vous vous êtes retrouvé là ?
La cuisine, c'est my hobby. Ah oui ?
Vous faites quoi là ?
Ça ?
Oui.
Ravioli, oignon.
Oui.
Et autre, il y a ravioli courgette,
oui.
Et ravioli tomate.
D'accord. C'est quoi ça ?
Ça, ce sont les tartelettes, pour les fameuses tartelettes à la salade. Qu'on nous présente aux clients comme amuse-bouche. Hein. Donc, tartelette de pâte feuilletée que l'on coupe ensuite au rasoir pour avoir quelque chose de régulier. Quoi. Et que l'on garnit donc, de salade finement émincée avec quelques pétales de fleurs. Hein. Fleurs de souci, de capucine, de ciboulette, un petit peu d'herbe aussi, de persil, d'aneth.
Pourquoi vous êtes le spécialiste des mignardises?
Le spécialiste, oui, si vous voulez. Non, aucune spécialité, hein, en fait. Tout le monde est polyvalent ici. Et donc,
tout le monde est polyvalent?
Oui, on se sert les coudes.
Vous cuisez vous-même votre pain?
Ah oui, alors le pain... est issu d'un levain naturel. Donc que de la farine. Farine, eau et fleurs de sel. Hein. Donc aucune levure. Une fermentation qui demande énormément d'attention. Donc un pain très parfumé en saveur. Et en ce moment, qui a des connotations de miel. Quelques mois de cela, on avait un goût de fleurs de pissenlit. Là, on est parti sur du miel. Et quand on va arriver sur l'automne, je pense qu'on va arriver sur quelque chose de plus noiseté. C'est en fonction des saisons. Hein. Et aussi de l'hydrométrie. Hein. C'est très important de l'eau qu'il y a à l'extérieur. Quoi.
Ça fait combien de temps que vous êtes à l'arpège?
Oula, ça va faire 2 ans.
Et pour encore combien de temps?
Oh, ça on sait pas, ça. Hein. C'est une si belle école. Dès qu'on a fini d'apprendre, on s'en va, quoi. Mais bon, il y a tellement à apprendre ici. Hein, y a, dans l'état d'esprit, dans la façon de travailler, dans la poésie du chef.
Est-ce que votre but, comme d'ailleurs des autres gens qui sont là, c'est finalement d'ouvrir son propre restaurant?
Alors, le but, c'est de se faire plaisir, je pense, hein, dans cette profession qui est quand même assez difficile. Mon rêve, moi, ce serait d'avoir une école. Une école, donc un restaurant et enseigner la cuisine.
Ah oui?
Ouais, donc plus qu'un restaurant, effectivement, oui. Et en fait, perpétuer les traditions gastronomiques, culinaires de nos régions et de nos anciens, quoi.
Ce terme de tradition, il veut dire quelque chose pour vous, Alain Passard?
Oui, je pense que c'est la base. Hein. La tradition, c'est la base du métier. Tout repose, si vous voulez, sur ce socle. Hein. C'est très important. Ce sont les racines qui nous permettent aujourd'hui de réaliser notre propre cuisine, quoi. Hein. Il y a différentes écoles. Hein. Bon, il y a des chefs qui sont insensibles à cette tradition, d'autres qui le sont plus.
On en entendait plusieurs. Comment vous choisissez les gens avec qui vous travaillez?
C'est avant tout une démarche de leur part. Hein. Ce sont des garçons qui ont écrit à l'arpège. Et ensuite, bon, il n'y a pas vraiment de critères, si vous voulez. Bon, faut que la maison plaise, tout simplement. Bon, une fois qu'ils sont effectivement dans les murs, après c'est un contact entre eux et moi. Où on se plaît ou on se plaît pas, quoi. Donc c'est, je suis pas hermétique, si vous voulez, à des candidatures qui n'ont pas réellement des...
Comme cet ancien travailleur de Mitsubishi.
Oui, vous voyez, donc si vous voulez, j'aime un petit peu la marginalité, un petit peu, ça peut être très intéressant, je trouve, qu'on peut avoir quelques surprises dans la démarche du cuisinier, puis il y a des cuisiniers qui peuvent se révéler un petit peu tard aussi, c'est assez amusant.
C'est un monde très masculin.
Malheureusement, je dirais, oui. Ouais. Ouais, je pense que la femme a une véritable présence pourtant à faire en cuisine. Je trouve que les écoles hôtelières ne sont pas assez fréquentées par la présence féminine. Je trouve qu'une femme est très belle en cuisine. Elle a une façon de poser les choses
qui est différente,
qui est très différente. Ouais.
Mais vous recrutez surtout il n'y a pas de candidature,
ouais, malheureusement.
Même si l'arpège n'est sans doute pas le meilleur exemple, parce que c'était une cuisine plus petite, enfin, on entendait tout à l'heure quelqu'un dire justement que les postes étaient assez polyvalents, on a l'impression comme ça que ce monde-là est un monde très hiérarchisé. On parle encore de brigade. C'est un des rares mondes professionnels où le mot de chef existe encore, d'ailleurs. Il n'a pas été remplacé par directeur des ressources humaines. Enfin, du politiquement correct, comme ça. C'est une nécessité, cette organisation?
Ben, écoutez, bon, j'ai le sentiment que c'est un petit peu en train de disparaître, que l'on rencontre de plus en plus des cuisines où règne autre chose, je dirais un certain bien-être, quoi. Il y a eu une époque assez virulente, effectivement, que moi j'ai même pas connue. Je pense que dans les années 50, 60, bon, les...
Mais il y a des étapes, vous avez franchi des étapes très très précises. On devient deuxième chef, responsable de poste.
Oui, enfin, ce sont des étapes qui peuvent aller assez vite, hein, si on se penche un petit peu sur le travail. Donc, si vous voulez, bon, il y a l'apprentissage. Ensuite, vous avez un poste de commis, après premier commis, ensuite chef de parti. Donc, c'est-à-dire que vous êtes responsable de votre poste. Ensuite, vous pouvez être sous-chef. Mais j'ai le sentiment que ça disparaît un petit peu et que on passe sur autre chose. J'arrive pas très bien encore à définir, mais il y a une certaine légèreté, une certaine souplesse dans toute cette hiérarchie qui est en train de disparaître. Et je trouve que moi je vois dans les cuisines de l'Arpège, tout le monde est un petit peu au même niveau. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Il n'y a pas, personne n'est mis en valeur. Il n'y a pas de gens dévalorisés, que ce soit un apprenti ou un chef de parti.
Il y a quand même les postes. Ils sont. Enfin, oui, il y a les fonctions existent.
Oui, il y a des fonctions existent, mais je dirais que on a le même dialogue avec tout le monde. Et puis, je trouve que ça roule mieux. Il y a une imbrication des gens qui se fait plus facilement.
Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui restera un bon auxiliaire et quelqu'un qui deviendra un chef qui...
La rigueur.
La rigueur ?
La rigueur, ouais. C'est déterminant. La rigueur, la ponctualité. Ouais, je pense que c'est ce qui permet de réussir dans beaucoup de choses.
Vous en avez déjà formé beaucoup qui ont ensuite ouvert leur restaurant ?
Oui, j'ai quelques élèves qui marchent bien. Ouais. Donc, je suis très fier, ouais, à Paris, en province, à l'étranger. Ouais, c'est un beau compliment. Ouais.
Vous allez dans leur restaurant un peu ?
Pas beaucoup, non. Je préfère partager une table avec eux.
Est-ce qu'il est dans vos objectifs de donner des références, des classiques, de donner naissance à des recettes Passard ?
Non. Pas du tout. Vous savez, je crois que on peut pas avoir ce genre d'objectif. C'est à la fois très prétentieux. Puis, vous savez, un plat, il a de vivre ou il a d'exister s'il a de l'être, hein, par rapport à sa qualité, par rapport à son relief, par rapport à son succès, quoi. Hein, et donc, on ne peut pas dire ce plat sera une référence, c'est le public qui décide.
Oui, mais vous n'avez jamais eu envie, parce qu'il y a des plats qui sont devenus des références, et le public a décidé, vous n'avez jamais eu envie quand même de publier un livre de recettes, de vos recettes les plus fameuses ?
Non, pas encore.
Pas encore, ou pas du tout.
Non, pas encore. Non, je sais pas. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose, mais vous savez, je crois qu'on devient réellement cuisinier autour de 40 ans. Hein, auparavant, c'est une école.
C'est-à-dire que quand vous aviez 2 étoiles à 26 ans, vous n'étiez pas cuisinier.
Ah non, bien sûr que non. Vous savez, la cuisine, c'est une longue histoire, et je crois que je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui par rapport à ce que je fais. C'est un métier où, comme dans beaucoup de métiers, où on apprend tous les jours, c'est vrai. Mais je trouve que pour la cuisine, c'est encore plus appuyé. L'école est très très longue. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'école du feu, savoir percevoir sa puissance, c'est tout un art. Savoir percevoir l'école de l'assaisonnement, donc savoir percevoir un sel, savoir percevoir les épices comme ça, savoir le dosage qu'il faut rajouter dans une salade, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas apprendre en quelques années. C'est toute une vie. Et je trouve effectivement que on sollicite aujourd'hui beaucoup trop tôt les chefs pour faire des livres. Autrefois, Autrefois, les livres se faisaient en fin de carrière parce qu'on avait réellement des choses à raconter.
Et le fait d'être un des rares à refuser les produits dérivés, une marque Passard, ou même d'ouvrir des succursales, ça correspond à la même démarche ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est, si vous voulez, j'ai envie de préserver un petit peu ce que m'a offert la vie. Et puis, je me plais chez moi. Je me plais dans cet endroit. C'est un endroit où j'aime être, où j'aime arriver le matin.
Vous tenez quand même une rubrique dans le Figaro, parfois où...
Oui, en ponctuel aujourd'hui, qui m'a fait énormément progresser également, parce que...
C'est un besoin de diffuser vos savoirs, vos envies.
Oui, c'est également très important de communiquer un petit peu son savoir, hein, parce que il y a plein de cuisiniers et plein de ménagères aussi, ou des maris qui aiment faire la cuisine, qui ont envie d'avoir comme ça des tours de main, des astuces.
Qu'est-ce que vous souhaitez en priorité donner aux gens qui viennent manger chez vous ? C'est de la surprise, c'est du plaisir, c'est de la curiosité ?
Oui, c'est leur offrir de la perfection, surtout dans la qualité des produits, dans la qualité des cuissons, dans la qualité des assaisonnements, dans la qualité des températures. C'est le fond de l'assiette, quoi. C'est la priorité.
Et cette perfection, elle n'est pas accessible à des tarifs qui moins élevés ?
Si, bien sûr, oui. Absolument, on peut effectivement faire une cuisine avec des produits beaucoup moins onéreux, avec un effectif salle, cuisine, sommellerie beaucoup moins nombreux, bien sûr, ouais. Absolument.
Et ça vous tente pas pour donner plus largement accès justement à ces découvertes ?
Ben écoutez, le problème c'est qu'effectivement aujourd'hui on travaille des produits qui sont assez chers. Bon, il y a un coût matière qui est quand même assez élevé, donc la masse salariale est assez importante. Donc il faudrait effectivement que je puisse ouvrir un restaurant où je pourrais travailler seul ou accompagné peut-être d'un ou deux partenaires et travailler des produits plus simples. Oui, on pourrait faire des choses qui seraient moins onéreuses. Ouais.
Quel contact vous avez avec les gens qui viennent manger chez vous ?
Disons que je suis assez proche de ma salle. Parce que j'aime...
Même géographiquement, ça se voit dans le restaurant.
Oui, tout à fait. Oui. J'aime. Ce qui est important, si vous voulez, en cuisine, c'est de savoir un petit peu à qui on fait la cuisine. Moi, j'aime un petit peu faire un petit tour de salle en début de repas, parce que donc, ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. C'est important de savoir si c'est un homme ou une femme, si c'est une clientèle étrangère, française, si c'est une clientèle jeune ou moins jeune. Je crois que c'est important parce qu'on modifie un petit peu sa façon de faire. Et parfois, ça m'amuse parce que donc je peux faire des variantes d'assaisonnement parce que, bon, si je prends par exemple le cas des... Bon, les Japonais sont très sensibles au sel. Donc, quand je sais que je fais la cuisine pour une table de clients japonais, donc on va beaucoup moins appuyer un petit peu la fleur de sel sur les plats. Vous voyez, ce sont des détails comme ça, mais c'est important.
Mais ça se voit à partir d'un tour de salle, vous voyez juste les têtes des gens et vous, ouais. Ce que vous sentez.
Oui, bon, je peux aller saluer la table, les accueillir, et j'en sais assez pratiquement après, donc je retourne à mes fourneaux, et si vous voulez, j'ai une image dans la tête. J'ai vu à qui j'avais affaire. Donc, en cuisinant, c'est important aussi de faire la cuisine quand vous recevez chez vous. Vous savez à qui vous faites la cuisine. Et je trouve que dans les restaurants, ça devrait être la même chose. On ne peut pas. Je trouve qu'un cuisinier ne peut pas faire une cuisine aveugle comme ça. Moi, quand je cuisine, bon, j'ai un visage en tête, j'ai en mémoire une table, j'ai vu. Bon, c'est une fraction de seconde. C'est comme ça. C'est une image, c'est une photo, mais je reviens avec quelque chose à mon fourneau.
Et vous avez des habitués, par contre, où c'est important d'avoir justement des gens qui viennent régulièrement, qui vous disent. Ce qui évolue chez vous ou pas du tout ?
On a quelques habitués, oui, comme dans toutes les maisons où il y a des supporters. Ouais, ouais. Ouais, et puis c'est important parce que bon, ce sont des baromètres importants sur les nouveautés, sur la création, sur les saisons. Ouais, ouais.
J'imagine quand même que voilà, cette découverte, vous avez envie de la faire partager, mais également de la faire reconnaître. Pour vous, la reconnaissance, c'est quoi ? C'est justement ces quelques personnes, c'est l'ensemble d'une salle, l'ambiance d'une salle, c'est les critiques, ou c'est l'ensemble de ça ? Qu'est-ce qui fait pour vous la reconnaissance ?
Bah, écoutez, c'est l'ensemble, effectivement. Donc, moi, je me suis toujours enrichi de mes défaites, jamais de mes succès. Donc, on est très à l'écoute de ce que l'on peut nous dire. Vous savez, on est deux fois par jour, si vous voulez, on est sollicité par le public. Donc, effectivement, on peut avoir une défaillance sur un assaisonnement, sur une température, sur une cuisson. Donc, c'est important de le savoir. Et je remercie toujours, si vous voulez, donc les gens qui nous apportent justement ce message, parce que bon, ça nous permet de corriger énormément de choses quand il y a une défaillance.
On a parfois décrit votre cuisine comme une tentative d'allier des contraires, le chaud et le froid, le neutre et l'aigu. Est-ce que ça vous convient comme définition, et est-ce que c'est quelque chose qui vous porte hors de votre cuisine, ce fait d'allier des clins d'œil qui, a priori, seraient des clins d'œil contraires?
Vous savez, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que je fais une cuisine que je pense être bonne, et je fais en même temps une cuisine complètement à l'instinct. C'est une cuisine d'instinct, donc je ne sais pas si elle est très contrastée dans les neutres et les aigus, dans les chauds et les froids, mais c'est une cuisine qui voyage énormément, qui est presque vagabonde, et elle est très difficile à définir parfois, parce qu'elle est issue, si vous voulez, d'une innocence, quoi. Et ça me va très bien, parce que j'ai pas le sentiment de travailler.
Il va bientôt être l'heure de rendre l'antenne, mais vous avez déjà une fois bouleversé entièrement votre carte. Quand le prochain grand renouvellement à la Passa?
Ouais, je sais pas. Écoutez, là, je suis en apprentissage sur le légume. J'en ai pour quelques années. On verra, on va voir. Mais pourquoi pas? Oui, je crois que c'est important de se remettre en question.
Vous savez déjà vers quoi ça va tendre?
Non, je sais pas. Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est... et ça, c'est pour moi la véritable future tendance, c'est de se faire plaisir avec ce que l'on mange et d'être surtout en accord avec ce qu'on a choisi. Hein, c'est important parce que ça procure énormément de bonheur, et quand on se nourrit bien, ben, fatalement, ça se voit à travers le visage.
Merci beaucoup, Alain Passa.
Mets-moi ça là-dessus. Là, tu veux aller au centre, comment?
Allez, comme tu veux, on s'en fout.
Allez, vas-y. Laisse tomber un massé, on s'en fout. Laisse tomber un massé, on s'en fout. Voilà.
C'est prêt, tac. Je redonne l'adresse de votre restaurant, l'Arpège, 84 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement à Paris. Et pour plus de détails, vous avez un site internet presque aussi bien fait que celui de France Culture, www.alain-passard.com.
Ah bah, cerfeuil, on l'avait pas noté, ça, je parie.
Corian, vous en
êtes. Mais par contre, cerfeuil, on
l'avait pas noté. En 2 minutes, tu peux expliquer la recette?
Oh non. On a à peu près 6 minutes pour préparer ça. Il faut qu'on ait 2 rougets qui soient pas levés. Et les autres filets qui sont...
C'était De l'un à l'autre, une émission proposée par Joseph Confavreux avec l'aide de Tony Pineda, à la console de diffusion aujourd'hui Vincent René, et à la réalisation Angélique Thibault.
Voilà.
C'est prêt, tac.
Je vous signale qu'à 22h10, vous pourrez dans Bande d'amateurs entendre le témoignage de Mario, l'halluciné de la radio.
Tu ouvres la bouteille d'huile d'olive, tu bouges,
Oui, mais je prépare tout lavé. Après, t'as plus qu'à hacher ou tu fais très bien.
C'était un numéro de l'un à l'autre avec Alain Passard au micro de Joseph Confavreux, diffusé pour la première fois le 28 août 2003.